Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Avoir le courage de dire aux gens « j'aime ça, je suis profondément amoureux de ça, mais je sais pas pourquoi et j'ai pas besoin de le justifier ». Dans notre société, je trouve ça demande du courage. D'assumer ce côté de « non, je sais pas si ça va, je vais gagner ma vie avec, je sais pas si, mais j'aime faire ça ».
On parle du monde de demain et d'après, de celui d'avant et d'hier. En comparant ce qui a été et ce qui est, ce qui devient. En regrettant ou en procrastinant. On ne sait plus bien sur quel pied danser, ça bouge et on le sent. Partout, à tous les niveaux. Des changements de paradigme, des prises de conscience, une quête de sens généralisée, des envies de vivre mieux, avec moins, en harmonie avec notre écosystème. Le changement de société que l'on est en train de vivre est en réalité très profond et complexe. Il remet en question des années de modèles que l'on croyait bien ancrés dans le marbre et concerne tout le monde, à tous les niveaux. Ferdinand Richter est de celles et ceux qui décryptent, dessinent et réinventent ces modèles. Il déconstruit pour créer, en conscience, en alignement et dans le respect. Alors c'est un long processus qu'il nous livre aujourd'hui, celui qui vise à trouver sa place dans un monde en perpétuelle évolution. Cet épisode est passionnant, criant de vérité, et vous n'en repartirez pas indifférent, c'est promis. Et surtout, je vous souhaite de tomber amoureux. Celles et ceux qui iront jusqu'au bout de cet épisode comprendront. Merci d'être là.
En plus, j'ai une voix de crooner avec mon rhume, là. C'est...
Arrête, je vais mettre ça après. Salut Ferdinand.
Bonjour.
Je suis avec Ferdinand Richter, que vous connaissez déjà, parce qu'on a enregistré un épisode il y a un an à peu près, un peu plus d'un an déjà, qu'on avait fait à distance. Et là, j'ai la chance d'enfin te rencontrer.
Chance de tenir le micro jaune dans la main, enfin.
Le fameux micro jaune. Parce que j'ai interviewé juste avant ta femme, ouais. Lia. Et donc on s'est dit, tiens, pour la première fois, on va faire un épisode 2. Pour voir ce que tu es devenu.
Fais gaffe, ça va lancer une série avec tous tes...
T'imagines non, hein, ça ouais. Se pourrait. Je vais aller recontacter tous mes invités. Ouais, l'année passée. Et surtout, toi, il s'est passé beaucoup de... Il y a eu beaucoup de changements en un an. Tu vas nous en parler, mais tu as quitté Ecosia.
Ouais.
Et tu viens de publier ton livre « Réinventer le masculin » que j'ai dévoré. Et qui aborde plein de sujets que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui ensemble, que tu nous en parles un petit peu. Alors, il y en a peut-être qui sont arrivés dans l'année, qui n'ont pas écouté notre épisode, qui ne savent pas qui tu es. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, décrire ta personnalité, Ferdinand ?
Elle est complexe. Je suis... un scorpion avec une pensée en arborescence, hypersensible, voilà. Donc ça peut partir dans plein de directions, dans les profondeurs, dans les hauteurs. Mais si je dois me présenter comme ça, c'est vrai que ces dernières années, j'étais donc responsable France d'Ecosia et on va dire j'ai concrétisé mon engagement pour l'écologie, tout ça. Mais et j'en parle beaucoup dans le livre, ça n'a pas toujours été là. Donc moi je viens du sport de haut niveau, de formation, je suis psychologue, je me suis cherché aussi pas mal, j'avais fait des études d'ingénieur avant, donc c'est tout un cheminement en fait qui m'a amené à reprendre contact à ma sensibilité, me faire confiance, essayer de pas trop écouter ce que je devrais être mais plus qui j'ai envie d'être. et aussi accepter que de temps en temps j'en sais rien et que à chaque on va dire expérience aventure que je vis, je redécouvre à nouveau une partie de moi-même, comme c'est le cas actuellement avec la paternité où je prends conscience que je sais plus qui je suis en fait, c'est-à-dire je suis devenu papa, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est je dois le réinventer à nouveau. Et c'est une des raisons aussi pourquoi je sentis que je devais arrêter Ecosia, parce que il y avait un chapitre qui clairement se terminait. Je savais pas forcément qu'est-ce que allait être la suite, mais maintenant je me suis dit ok, fais confiance, regarde ce qui va se présenter ensuite.
Et qu'est-ce qui n'allait plus du coup chez Ecosia? Est-ce que c'était l'impression d'avoir juste clôturé un chapitre, mais finalement rien ne s'est passé de grave, ou il n'y a pas eu de réel burn-out, ou si
Non, pas du tout. C'est il y a eu des déclics, mais c'est plus alors c'est il y a plusieurs raisons, mais qui sont liées aussi à des décisions à la fois stratégiques de l'entreprise vers où ils veulent aller, et aussi tout simplement au rôle que j'y avais qui a bougé pendant que j'étais pas là. Donc moi j'ai pris un an de congé paternité, et ça c'est extraordinaire déjà que l'entreprise le soutienne. Mais clairement, en fait, quand une entreprise grandit, le risque c'est qu'il y a moins de créativité. C'est-à-dire que au départ, une start-up, c'est souvent, ben, on se débrouille comme on peut, il faut être créatif parce que t'as pas forcément soit les compétences, soit les moyens pour faire tout ce que tu veux. Donc, tu bricoles un petit peu, tu essayes, tu expérimentes, tu vois ce qui marche et tu l'améliores. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Ce côté, low-tech presque, tu vois, tu recycles des choses pour bricoler des trucs et c'est génial. Et quand une entreprise grandit, le grand risque, c'est que on met de plus en plus de processus. On a peur de perdre ce qu'on a déjà gagné. On structure, on organise, on fige en fait. Et ça, moi, je l'ai vécu en étant coach pour des grands groupes. Ça veut dire, j'ai vu ce que c'était une entreprise figée. Et moi, c'est dans ma personnalité, ça m'étouffe en fait. Je respire plus. J'ai l'impression de m'ennuyer au quotidien parce que je fais que reproduire ce que je sais déjà. Et je m'autorise plus à explorer ce que la vie me propose. Et moi, se reproduire là, ça va à l'encontre de la vie elle-même qui, elle, est tout le temps en train de se réinventer. Ecosia, qui a grandi, allait un petit peu vers ça. Et moi, le métier aurait changé, aurait été beaucoup moins libre. Et là, on s'est juste dit, ok, moi, avec le profil que j'ai, ça colle plus. Il y a d'autres personnes qui peuvent mieux faire ce que vous vous attendez. Et je vais du coup mettre ce que je sais faire et ma passion au service d'autres acteurs.
Dans ton livre, Réinventer le masculin, tu fais le parallèle entre, justement, on en parlait tout à l'heure, mais quand on lit le titre, on a l'impression qu'on va nous parler de masculinité, de féminité. Et en fait, ouais. Pas du tout. Tu fais le parallèle entre cette urgence écologique, entre nos modes de société actuels et entre cet ego parfois qui prend beaucoup de place chez l'homme. Quel est le message principal que tu as voulu partager au monde en écrivant ce livre?
Je crois qu'il y en a beaucoup. Je sais pas si je peux dire qu'il y a un message. Justement, s'il y avait un message, j'aurais pas écrit un livre. J'aurais fait des posts où je dis voilà le message. et je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'écrire un livre? Mais c'est parce qu'il y avait plusieurs messages. Peut-être quelque chose, c'est plus une invitation, c'est justement de prendre conscience que le changement qu'on est en train de vivre est très profond. Est très complexe, touche beaucoup, beaucoup d'aspects de notre vie, et notamment notre comment on se définit. Voilà. Donc, le masculin, pourquoi ce mot-là? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société, en tout cas occidentale, qui est basée sur des valeurs dites masculines, parce que depuis pas mal d'années, c'est comme les hommes au pouvoir qui mettent en place des structures avec des valeurs qui sont les leurs. Et c'est vrai que ce côté compétition qui est le plus fort, même dans la cour d'école, c'est déjà présent beaucoup chez les garçons. Donc il y a quelque chose qui est, voilà, je sais pas si j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, est-ce que c'est inné ou pas, mais en tout cas moi ce que j'ai observé, c'est que dans notre culture, qui est une culture de performance, de toujours plus loin, d'exploiter les ressources pour créer de la richesse, de toujours croître, toujours devoir être plus grand que ce qu'on est. Ça résonne quand même beaucoup avec les mecs qui veulent aller sur Mars alors que la Terre est en train de brûler. Voilà. Et c'est là que j'ai fait le parallèle, en fait. Et la seule chose que j'ai essayé de faire, et c'est ça dont je parle dans le livre, c'est encore une fois, c'est de démarrer avec moi-même et de me demander, ok, si moi je suis plus cet homme-là, ben, qui suis-je? Et ça, c'est pas si facile à y répondre.
Tu as réussi à y répondre?
Je crois que je suis toujours en train. Ça évolue, ça, c'est pas quelque chose qui est définitif, mais qui est en cours. Voilà. Et je crois que c'est aussi peut-être quelque chose avec ce livre, c'est un petit peu plus aussi un appel. Parfois, je me demande même si c'est pas un appel désespéré aux gens, au monde, aux personnes, pour dire est-ce qu'il y en a qui pensent un tout petit peu comme moi ou je suis complètement déconnecté? Et si vous pensez comme moi, ben parlons-en et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble parce que quand on est dans des combats que tu connais bien, il y a des moments où on peut se sentir seul où on se dit attends mais je suis en train de devenir fou là, tout le monde fait quelque chose de différent, est-ce que c'est moi qui voilà, ou on, voilà, le doute fait partie en fait du chemin aussi. Ouais.
Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre dans tes cahiers d'école et que t'as jamais eu l'occasion de lire, qu'on t'a pas dit?
Il y a beaucoup de choses. Actuellement, il y a un truc que moi j'aurais beaucoup aimé apprendre que j'ai jamais appris et ça va ramener sur Terre parce que c'est pas du tout une thématique spirituelle. C'est comment fonctionne vraiment le monde, notamment au niveau financier. En fait, je suis en train, et ça c'est très récent, hein, mais c'est une thématique très nouvelle. D'ailleurs, j'en parle pas dans le livre parce que c'est tellement récent où j'ai pris conscience à quel point on n'apprenait pas comment fonctionnait l'argent en fait, comment c'est structuré, comment les riches créent de la valeur grâce à la dette, comment 90% des gens croient qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose, alors que quand on regarde ceux qui ont beaucoup d'argent, ils empruntent, et c'est-à-dire c'est très pervers comme système, mais en fait moi c'est quelque chose que j'ai jamais appris quoi. Voilà. Donc et j'apprends maintenant bientôt à 40 ans, je me dis ah wow, ah ouais d'accord,
Qu'est-ce que
c'est
tu as justement vraiment compris sur le système financier qui t'a éveillé, qui
ouais,
t'a
je sais pas
interpellé?
si j'ai déjà compris des trucs, mais parce que c'est vraiment pas mon domaine, hein. Moi
C'est
j'ai fait la
compris.
sport, la psycho, très intellectuel, mais tout ce milieu-là, moi j'étais pas du tout en contact avec ça. Donc je dirais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup beaucoup de gens bénéficient du fait qu'on sache pas. C'est-à-dire ils nous font croire que c'est le chemin A qu'il faut prendre, alors que eux ils prennent le chemin B. Tu vois, tout à l'heure pendant le repas, on parlait des grands dirigeants de la tech qui disent à leurs enfants de pas utiliser les écrans. C'est exactement ça. C'est-à-dire ils vendent au monde utiliser les écrans. Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs proches, c'est ne les utilisez pas. Donc clairement, il y a des histoires comme ça où c'est plus pour que certains s'enrichissent que nous, on croit à une histoire. Et ce qui est ouf, c'est que moi-même, on n'en a pas conscience en fait. Tu vois? C'est-à-dire, on joue ce jeu, mais on n'a même pas conscience que c'est un jeu, c'est de la dure réalité. Et que pour s'en sortir, c'est pas évident. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec Internet, aujourd'hui, il y a des possibilités d'avoir des connaissances qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est quand même magique. Tu vois. Et d'une certaine façon, tout ce que j'ai appris avec ce premier livre, avec plus, on va dire, l'exploration personnelle, j'aime plus ça que développement, parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup développé. Par contre, explorer, oui. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est-à-dire que c'est très basique. Apprendre à gérer ses émotions ou déjà à en prendre conscience ou même justement pas les gérer mais savoir comment est-ce que je peux les exprimer, qu'est-ce que c'est l'intuition, prendre soin de son corps vraiment, alimentation, comment je m'alimente, c'est des trucs basiques de je suis un être humain donc j'ai un corps, j'ai des émotions et j'ai un esprit, je vais d'abord avant d'apprendre l'histoire de notre pays, je vais déjà apprendre comment vivre dans ce truc-là qui est le corps physique. Ça pourrait être super intéressant, je pense que si on apprenait
Et
un peu plus
ouais.
tôt.
Et il y a un moment dans ton livre, tu prends l'exemple d'un hamster qui court toujours plus dans sa roue
Ouais.
et que s'il arrête de courir, en fait, il meurt. Comment on pourrait faire le parallèle avec les hommes, avec un grand H, qui est justement, ben, dans notre quotidien, on court, on passe notre vie à courir, à en vouloir toujours plus, et on se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'il faudrait ralentir.
Mais c'est, toi, c'est rigolo que tu parles de cet exemple-là parce que c'est exactement lié au ce qu'on vient de dire sur la finance, c'est-à-dire le hamster, il est persuadé que pour survivre et pour être quelqu'un d'aimé dans ce monde, voilà, il doit continuer à courir dans sa roue. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'il a appris depuis petit, c'est cours dans ta roue parce que si tu arrêtes de courir, limite tu meurs ou tu t'es plus personne, c'est fini. Et que en dehors, il y en a quelques-uns qui sont assis, qui construisent des roues, qui racontent cette histoire et qui en profitent. Moi, j'ai l'impression que pour à un moment donné, la vie, elle nous propose de sortir de la roue. Soit elle nous fout dehors. Donc, et ça peut être un truc qu'on peut vivre individuellement ou ce qu'on vient de vivre ces deux dernières années où tout s'arrête d'un coup et mine de rien, c'est possible. C'est ça qui est ouf. C'est que pendant certaines périodes, tous les roues ou beaucoup de hamsters se sont arrêtés dans le monde. Et mine de rien, on est toujours là à en parler. Donc, c'est possible. Voilà. Le seul truc maintenant, c'est de se poser la question, est-ce que je suis vraiment heureux de cette roue? Est-ce que je rêve du fait de la relancer pour courir à nouveau à fond? Ou est-ce qu'au contraire, je saisis cette opportunité pour dire, mince alors, en fait, ça allait pas trop. Et peut-être qu'il faudrait créer un autre monde où on n'est pas en train de courir tout le temps dans une roue, mais on fait autre chose. Et cette autre chose-là, c'est tellement inconnu et incertain parce qu'on a tellement peu exploré que ça fait flipper à mort. Parce qu'on sait pas. Tu vois, et c'est ce qui se passe, je crois, avec ma génération, mais ta génération aussi, c'est que on est paumé. On est paumé, mais pas dans le sens forcément négatif du terme. C'est juste dans le sens de, ben, l'avenir, il faut qu'on le crée. C'est-à-dire, il n'y a plus la certitude de c'est ça qu'il faut faire parce que ça nous correspond plus, quoi.
Le chat, il veut rentrer.
On a un chat qui miaule dans la porte.
Et la spiritualité dans tout ça. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont sceptiques de la spiritualité, qui sont très terre à terre. Et en fait, tu es un exemple même de quelqu'un qui était quand même très matérialiste et attaché à cette nécessité du toujours plus. Et en fait, c'est Ilia, ta femme, on en parlait ce midi, qui t'a éveillé à tout ça. Et au début, tu l'apprenais pour une folle, tu ne croyais pas du tout, tu disais, mais elle est perchée, enfin, moi je suis ultra terre à terre, je ne comprends pas tout ça.
Ouais.
Et à partir de quel moment, justement, tu t'es rendu compte que oui, la spiritualité, ça pouvait réellement changer une vie, et à quel moment tu t'es reconnue en tout ça, en fait, finalement?
Ouais, encore une fois, je crois que c'est un chemin, ça veut dire que c'est pas un jour j'y crois, un autre jour j'y crois plus, ou l'inverse, tu vois, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est une fois, il y a eu vraiment le déclic, moi, avec les blessures que j'ai au rugby. Avec cette notion, et si c'était pas un hasard? C'est-à-dire, si ce qui se passe dans mon corps est à l'image de ce qui se passe ou s'est passé dans ma vie. Voilà. Et il y a des livres qui parlent de ça, il y a plein de gens qui parlent de ça, juste la symbolique des blessures, par exemple, si tu es malade et tu tapes le nom de la maladie avec symbolique, tu trouves plein d'explications de qu'est-ce qui pourrait être derrière. Et c'est juste de voir que, ok, il y a une réalité physique. Je me suis foulé une cheville et il y a une réalité émotionnelle, il y a une réalité spirituelle, si tu veux. Et que de comprendre qu'il n'y a pas une seule vérité, mais que elles existent toutes et que c'est pas l'une qui est meilleure ou plus importante que l'autre, c'est juste, c'est complémentaire. Et que tu peux non seulement guérir ta cheville en allant voir, un kiné avec qui tu vas faire des, voilà, mais que tu peux aussi agir sur tous les autres niveaux. Et que ça va t'aider notamment à guérir plus vite, mais aussi à prévenir qu'il y a certaines blessures qui n'ont même pas besoin de te ralentir. Ça a quand même changé ma vie. Et après, très concrètement, moi, la spiritualité, quand ça, il y a eu vraiment un déclic, c'est une spiritualité vécue. C'est-à-dire, j'ai jamais été, par exemple, croyant en termes religieux. Mais par contre, je me suis dit, ah, là, il y a des stages qui m'intéressent avec des gens qui parlent de trucs que je trouve chelous, mais je vais être curieux. Je vais voir ce qui se passe. Et s'il y a rien qui se passe, ben tant pis, j'aurais passé un week-end avec des gens, quoi, avec un peu. Voilà. Et au mieux, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que dans le livre, je parle pas mal d'expériences où physiquement dans le corps, j'ai vécu des trucs. On me dit, wow, mais c'est incroyable. Et après, tu mets des mots dessus comme tu veux, tu vois. C'est notre mental. Après, il essaye de mettre du sens. Moi, je me rappelle. La première fois que je suis rentré d'un stage de respiration, j'étais encore avec mes anciens collègues qui étaient coachs en entreprise. Et j'étais tellement, tellement surpris par ce que j'avais vécu que j'étais dans un resto et je leur parlais de, mais tu sais, mais les vies antérieures, ça existe vraiment. C'est un truc de dingue.
Ils te prenaient pour un fou.
Ouais, c'est étonnamment, je dirais, ils ont même pas osé me dire que j'étais fou. Et je crois qu'ils étaient juste surpris que d'un coup, j'avais ce réveil. Mais encore une fois, c'est juste être curieux de se dire peut-être que le monde, il est plus grand que ce qu'on croit. Et ça, depuis que j'ai démarré dans cette spiritualité, ça a jamais arrêté. Au contraire, ça continue en fait. À chaque fois que je crois que le monde est fini, en fait, il est plus grand. Sauf qu'il est pas plus grand dans la même dimension. C'est-à-dire que c'est matériellement, physiquement, la Terre, elle est finie, c'est une, c'est, voilà, on peut pas aller, pas la, l'agrandir dans la matière. Par contre, spirituellement et tout ça, là, il y a autre chose à explorer.
Il y a une sous-partie dans ton livre qui parle de l'importance de s'entourer de personnes qui challengent notre vision du monde.
Ouais.
Et ça m'a interpellée parce que c'est vrai que souvent, dans notre quotidien, on essaie de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Et en fait, on se crée un peu un environnement qui nous ressemble et qui nous challenge pas toujours. En quoi, pour toi, c'est important d'aller chercher justement des points de vue qui sont différents et qui nous mettent face parfois à nos propres contradictions?
En tout cas, c'est quelque chose que j'ai, je vois dans, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on on va chercher des personnes qui vont nous renforcer dans nos croyances. Ouais. Le problème, c'est qu'on crée une bulle et du coup, on voit plus les différentes formes de réalité. On voit une réalité et ça peut être chouette un certain temps, mais le risque qu'à un moment donné cette bulle elle éclate, il est quand même, il grandit avec le temps. Je vais prendre un exemple très concret des, de grandes entreprises qui actuellement veulent par exemple dire « Allez, on va planter des arbres pour être neutre en, en carbone. Tu vois ». Eux, dans leur bulle, ils sont entourés par des gens qui vont dire « Waouh, mais c'est génial !» Donc on pourra continuer à prendre l'avion tant qu'on plante des arbres, on est neutre en carbone, mais on est ouf, on est des leaders dans le monde. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à côté de ça, en même temps, il y a déjà une entreprise qui non seulement plante des arbres, mais qui met tous ses bénéfices dans la reforestation. C'est-à-dire que comparé à cette entreprise-là, ils ont 20 ans de retard. Et au lieu de demander à des experts ou même à des activistes écolos de challenger leur stratégie de développement en disant « on n'y connaît rien, on est dans notre bulle, on a besoin de gens qui nous disent clairement qu'on est à côté de la plaque », ils vont inviter des gens qui vont faire un petit peu un discours pour éveiller les consciences, pour les rassurer dans leur truc. Ça marche pas. Et le problème, c'est qu'à long terme, ils se tirent eux-mêmes dans le pied. Et ça, c'est juste quelque chose que j'ai vu et c'est pas agréable, c'est pas confortable. Mais en fait, ça crée une forme de résilience. De se dire, OK, j'ai un autre point de vue. Est-ce que je suis d'accord? Peut-être pas. Peut-être oui, sur certains points. On reste un peu ouvert et on se dit, OK, j'ai peut-être pas toute la vérité. Toi.
Tu traites un chapitre qui s'appelle Renouer les liens authentiques. Est-ce que tu as le sentiment qu'on a perdu ces liens qui sont si précieux entre humains?
J'ai l'impression que de plus en plus, on les a perdus ou bien, encore une fois, et ça revient dans ce que je parle dans le livre, on les exploite en fait. C'est-à-dire, il y a tellement de liens qui sont naturellement, l'être humain est en lien et crée des liens et c'est quelque chose d'assez inné, c'est surprenant, tu vois. Quand je regarde ma fille, on lui a pas appris, elle a pas besoin. Toi, elle te connaît pas aujourd'hui. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle te regarde, elle fait te sourire ou un clin d'œil. Elle crée du lien avant même qu'on ait pu lui apprendre. Donc, c'est quelque chose d'inné. Par contre, qu'est-ce que nous, on fait? On va exploiter ces liens. Avec l'âge, j'ai l'impression qu'on va s'interdire d'être directement en lien de façon authentique avec les autres. C'est-à-dire, on va avoir peur. Est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va m'utiliser? Qu'est-ce qu'il va penser de moi ou elle? Et ça va très loin. Hein. Un exemple, par exemple, de La Poste. La Poste, qui ont développé un service où maintenant tu payes les facteurs pour passer du temps avec tes grands-parents ou pour vérifier qu'ils respirent encore, quoi. Toi, avant, moi je l'ai connu ici dans le sud de la France, avant le facteur il le faisait gratuitement. Il le faisait pas parce que quelqu'un le payait pour le faire. Il le faisait parce qu'il avait le temps de passer 10 minutes à prendre un café pendant qu'il délivrait le courrier. Il parlait un petit peu avec les personnes, il demandait comment ça va. Et ah oui, est-ce que vous pouvez pas amener cette lettre au voisin? Ben, bien sûr, je la prends. Ça, c'est du lien authentique. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a commercialisé, c'est-à-dire La Poste gagne de l'argent en disant, ben maintenant, on va développer ça. Et ça, je trouve ça triste. C'est-à-dire, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de mettre de l'argent dessus, un coup dessus. Et on le voit avec les réseaux sociaux. Au départ, les réseaux sociaux, c'est j'ai envie de partager quelque chose avec les gens. J'ai envie de partager une passion ou de raconter une histoire ou des photos ou même me montrer au monde, pourquoi pas, voilà. Et malheureusement, la stratégie de Facebook, c'est gagner plein d'argent. Donc, au fur et à mesure qu'ils rachètent les réseaux sociaux, ils sont en train de détruire tout ça en commercialisant toutes les interactions. Et ça fait qu'on le sent. C'est pour ça que les jeunes générations, d'après moi, ils migrent vers les nouveaux réseaux où c'est pas le cas. Parce qu'on a besoin de ces liens authentiques, quoi.
Qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui pour un monde meilleur demain?
Oh, ça dépend les jours.
Ouais, je suis pareil, ça fait yo-yo. Parfois, je me dis, mais ça va être génial. Et d'autres moments, je me dis, mon Dieu, quel chaos.
Non, ce qui me donne l'espoir, c'est quand même la capacité de la nature à se régénérer, la résilience de la nature qui est incroyable. Et mine de rien, nous, on en fait partie. Hein. C'est pas la nature et nous, c'est que tu prends une terre qui a été mais massacrée, exploitée, tu mets un peu d'eau, tu mets un peu de quelques graines et tout, et il y a des trucs qui repoussent. C'est quand même oufissime quand tu y penses. Hein.
Mmh.
Et nos corps, c'est pareil. Tout ce qu'on ingère en bouffe, et que si tu te reconnectes un peu à ça et que tu reviens dans une alimentation un peu plus saine, c'est incroyable comme le corps, il se régénère. Et ça, ça nous dépasse tellement, cette puissance-là, c'est-à-dire personne ne pourra le contrôler. Donc ça, je trouve ça, c'est très très beau. Et ce qui me rassure aussi, c'est que de plus en plus de personnes, notamment de jeunes personnes, beaucoup plus tôt remettent en question un système et s'autorisent, au-delà de le remettre en question, d'agir. Ça, je trouve ça super. Tu vois. Avant, toi-même, moi, j'ai à la trentaine, veut dire un peu avant la trentaine, j'ai commencé à avoir ma crise et je dis, voilà, oh ça ne va plus.
Mmh.
Voilà. Maintenant, c'est plus la trentaine. Maintenant, c'est voire à la vingtaine que voire plus tôt. On le voit avec des Greta qui ont démarré très tôt, qui disent là, on veut plus. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on gagne énormément de temps et surtout, on a des personnes qui sont encore qui n'ont pas très brainwashé, on va dire. C'est-à-dire, ils sont encore vraiment dans cette... connectés à quelque chose de peut-être plus impulsif, plus naïf, mais qu'on a besoin pour créer l'avenir et pas reproduire encore et encore les mêmes choses.
Est-ce qu'il faudrait développer une part d'innocence un peu aussi pour construire le monde de demain?
On a quelqu'un qui veut participer. Elle est d'accord. Qui se réveille de la sieste. Voilà, c'est ma fille qui dort à côté.
Elle est contente, elle a fait son apparition dans le podcast.
C'est ça. En fait, moi je remarque que c'est très dur de vivre sans innocence. C'est-à-dire que c'est lourd en fait quand tu te confrontes tout le temps. L'avantage de l'innocence, c'est que tu fais des trucs où tout le monde va te dire mais c'est impossible. Et toi, parce que tu sais pas que c'est impossible, tu vas le faire, tu vois. Et ça, c'est pour ça que ça c'est à cultiver presque, tu vois. Et on peut le cultiver plus tard, mais quitte à en profiter avec les jeunes, de se dire, ben voilà, on y va, on sait pas ce que ça va devenir, mais on tente, quoi. Tu vois. C'est protéger un petit peu des choses qui poussent sans essayer de directement les mettre dans une forme ou les... Ça, c'est extrêmement important, quoi. C'est comme dans un jardin. Naturellement, les plantes, les graines qui tombent, elles vont s'adapter à l'écosystème en fonction de ce qu'est l'écosystème. Et je crois que c'est un petit peu pareil avec l'être humain, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent maintenant, c'est plus les mêmes que ceux qui étaient sur Terre il y a 60 ans. Et donc, c'est juste être curieux de dire, ok, qu'est-ce que eux ils apportent, quelle vision ils ont, qui est forcément juste parce que ils sont là dans le présent. Et ça, en tout cas, faudrait s'inspirer de ça, d'après moi.
Je vais te poser une question que j'ai posée à Ilia. Comme ça, d'accord. Vous pourrez comparer vos réponses, ça va être drôle. Qu'est-ce qu'être amoureux, ça apporte dans une vie? Et là, tu te dis, j'ai hâte d'écouter ce qu'il y a.
Grave. C'est assez simple, ça donne du sens à ta vie. C'est peut-être un des plus beaux conseils qu'on puisse donner à tout le monde. Hein. C'est trouver quelque chose dans lequel vous êtes amoureux et continuez et faites-le. Et ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être une idée. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. Moi, je choisis mes projets. Si je tombe amoureux d'un projet ou d'une personne, ça veut pas dire qu'il faut avoir une relation amoureuse avec tout le monde. Mais c'est ça. Moi, Ecosia, quand j'ai vu le truc, j'ai eu un coup de foudre. Je suis tombé amoureux de cette boîte alors que je la connaissais même pas. Voilà. J'ai d'autres projets comme ça où je vois le truc et je dis c'est beau, c'est génial. Ça peut être pour plein de raisons. Hein. Et c'est très subjectif. C'est-à-dire, ça donne une direction à la vie, en fait. Ça aide à faire des choix. Et j'ai l'impression que ces choix-là, ils sont beaucoup plus justes que des choix qui sont uniquement rationnels.
Très chouette, très chouette. Et donc, je vais te reposer cette fameuse question. Alors, je ne sais même plus quelle réponse tu m'avais donnée il y a un an.
Non plus.
Donc, tu vas nous dire, Ferdinand, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui ?
Ah, c'était ça la question.
Et oui. La fameuse question signature.
Bah, faudrait presque répondre avec la question que tu viens de poser. Mmh. C'est d'avoir le courage de tomber amoureux.
Ah, c'est pas mal. Comment il m'a retourné là. Ok.
T'as vu ça?
Il faut du courage pour tomber amoureux.
Ouais, quand tu... Moi, en tout cas, comme ça que je le vis, c'est quand tu tombes amoureux, c'est irrationnel. C'est-à-dire tu peux après expliquer pourquoi, mais dans un premier temps, quand t'aimes quelque chose, quand t'aimes manger quelque chose, tu sais pas forcément pourquoi. Après, tu peux trouver des raisons, mais... et ça, avoir le courage de dire aux gens, j'aime ça, je suis profondément amoureux de ça, mais je sais pas pourquoi et j'ai pas besoin de le justifier. Dans notre société, je trouve que ça demande du courage, toi, d'assumer ce côté de non, je sais pas si ça va, je vais gagner ma vie avec, je sais pas si ça va, je sais pas, mais j'aime faire ça, toi. C'est comme toi avec ton podcast, c'est ce qui me vient, c'est de dire oui, ben je sais pas qu'est-ce que ça va devenir, mais j'aime ça, ça me remplit et du coup je continue et je verrai bien. Et ça aujourd'hui, je crois qu'on ouais, il y a besoin de courage parce que notamment les parents, c'est inquiétant de dire oui, mais qu'est-ce que tu vas devenir et comment tu vas gagner ta vie et qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans et donc voilà mon conseil si vous nous écoutez, c'est ayez le courage de tomber amoureux. Voilà.
Super. Et ben merci beaucoup Ferdinand.
Merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver, d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.